Noël? On est-tu jeudi? On est-tu vendredi? On est quel jour?
Jeudi 7 décembre, jour de paye.
Bon jeudi tout le monde. Bon jour de paye tout le monde. Merci beaucoup aux auditeurs. On a eu nos résultats numériques.
Yes.
Cette station-là est en montée depuis un an comme pas possible. En fait, on est la station où il y a la plus forte augmentation depuis 365 jours. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à l'équipe entière de Boulevard que vous entendez en ondes, mais aussi les patrons qui sont là, qui travaillent extrêmement fort, les gens qui sont aux ventes, ainsi que les gens qui sont dans le service de communication. Puis j'ai oublié les techniciens tantôt.
Jordan.
Ils sont toujours ici dans le studio, mais on ne sait jamais ce qu'ils font.
Exact. Jordan et Beach Boy, qu'on adore.
Je vais revenir sur Samuel Montembeau.
Oui.
Je vous disais que c'était la première fois qu'un gardien cette année avait deux matchs consécutifs.
Oh, oh, oh!
Puis là, je me suis fait avoir. Parce que j'avais lu une publication d'RDS, puis j'ai lu trop vite.
Ah, voilà.
C'est la première fois depuis Jake Allen à la mi-octobre que c'était pas arrivé qu'un gardien avait joué deux de suite.
Voilà.
Fait que je me suis fait avoir, donc merci à Félix sur le Twitch qui a dit que c'est faux. Montembeau a gardé le filet contre Chicago et contre le Wild en début de saison. Puis Jake Allen l'avait fait en mi-octobre. Donc, c'est mon erreur.
Ouais, ça fait du bien quand on a ça à notre humilité.
Ah, c'est parfait. Moi, j'accepte ça, les erreurs.
Exact. Merci beaucoup en passant.
Vous êtes écœurant.
Il y a des trucs du genre 418-971-1021. On apprécie beaucoup. On parle de chasse et de pêche avec l'excellent président du groupe Aventure Chasse-Pêche, Martin Bourget. Salut, mon ami!
Hey, salut, vous autres. Comment ça va?
Ça va très bien. Un gros merci à toi, puisqu'on a eu de bons résultats pour mon sondage.
Puis comme félicitations! Collaborateur. C'est le fun à entendre, ça. C'est le fun. Quand on peut regarder un bilan et on dit on est en progression... ça veut dire que t'as la bonne recette de sauce à spag. Ça veut dire que t'es dedans.
Il y a un petit peu de toi là-dedans.
Non, un petit peu.
Oui. Puis le soir, c'est une forte progression aussi au niveau des parts de marché. Ce qu'on avait avant, là, dans une autre vie radio, on est en train de tout le récupérer. Fait qu'on est très fiers de ça. Puis, comme tu as fait partie de Marceau le soir avec moi, je te remercie aussi pour ça. Hey, question la plus importante de l'entrevue, comment va Kate?
À ta peu, elle va te répondre. Comment ça va, Kate?
Ça va super bien.
Salut, Kate.
Et toi?
Ouais. Vous êtes dans quel secteur, les amis?
Là, on était entre deux. Ce matin, on était dans le coin de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'était le déjeuner de la Fondation de la Fonde, déjeuner annuel de la Fondation de la Fonde. Là, on s'en va à Saint-Alexis-des-Monts pour le congrès de la Fédération des pourvoiries. Pour redescendre ensuite demain dans le secteur de la Zec-Jarro en Beauce pour aller avec les jeunes la chasse au cerf de Virginie en format relève. Fait que on est dans plein secteur.
Ben oui. Hey, en fin de semaine passée, j'ai été faire un tour à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
Ben oui, en retraite.
Ouais, j'ai fait une petite retraite silencieuse de 3 jours. Là, je voulais plus m'entendre parler.
Et les autres non plus.
Puis je me promenais tôt le matin et ils ont des poulaillers. Eux autres, ils ont une coupe de trucs là, sur le terrain de l'abbaye. Puis j'entendais des coyotes au loin. Que c'est exceptionnel d'entendre ça, Martin. Puis en même temps, t'sais, est-ce qu'il y en a tant que ça, des coyotes autour de nos villes?
Ben, j'allais dire pas tant exceptionnel, surtout cette année, puisque... Ouais. Le coyote est en forte augmentation. Ouais.
Mais je disais exceptionnel dans le sens où, tu sais, d'entendre ça tôt le matin, tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça.
Ben, n'importe quelle faune ou flore est le fun à observer. Puis quand il y a du comportement animalier, ça devient encore plus intriguant pour nous autres parce que ça nous rapproche de quelque chose à quoi on ne touche plus maintenant, qui s'appelle la nature, loin des écrans. Fait que quand tu as la chance d'entendre n'importe quel animal qui vocalise un huard sur le dessus d'un lac, c'est trippant à entendre. C'est sûr que c'est exceptionnel. Par contre, oui, je te réponds, il y a de plus en plus et beaucoup, beaucoup d'auditeurs nous écrivent. Fait que comme je pense, j'ai entendu un coyote, je sais pas si c'est coyote, loup. Quand vous entendez des grands hurlements prolongés, là, ça va avoir plus tendance à être un loup, mais plus quand vous montez vers le nord. T'sais, on va dire, par exemple, la 40, puis le nord de la 40, là, au nord de la 40, ça serait plus normal. Quand vous êtes très au sud, là, vous allez vous rendre compte que souvent, c'est des hurlements qui sont beaucoup plus saccadés. Ça a l'air d'une gang de chiots qui se tient. Ça, c'est du coyote. Ils vont souvent être en beaucoup plus grosse meute. Et il y en a, écoute, présentement, le soir, quand je sors prendre un café, oui, même à cette température-là, ça guérit en avant de la maison, je peux entendre à l'oreille 3 meutes de coyotes très, très, très distinctes juste dans mon secteur. Hey. Et ça s'explique, il y a des secteurs... Tu sais, à un moment donné, on a décidé de cultiver notre propre viande dans la vie, là, oui. Puis évidemment, ben, il y a de la ressource animalière en milieu agricole, les porcheries, les poulaillers, etc., généralement, les producteurs font récupérer les animaux décédés à l'avant. Il y a des firmes sanitaires qui ramassent ça. Mais il y en a qui prennent le pouce puis qui s'en vont tirer ça dans le bois. Fait qu'il y a beaucoup de nourriture gratuite en milieu agricole pour le coyote. Fait qu'il s'y concentre souvent. Puis c'est pas rare que, ou Kate ou moi, on va recevoir des appels de fermiers, de cultivateurs, d'agriculteurs qui ont besoin d'un coup de pouce, soit de trappeurs, les trappeurs gestionnaires, ou encore de chasseurs pour aller faire de la déprédation parce que ça devient problématique. Puis nous autres, on a tendance à répondre très, très vite à ça. La majorité des gens ne le savent pas. J'avais une discussion avec Stéphane Monette. Cette information-là me vient de Stéphane Monette directement, que tu connais très bien, qui te salue en passant. Steph s'est interrogé à un moment donné sur combien de bêtes, combien de cerfs de Virginie un coyote pouvait tuer par année. Hein? Parce qu'on est en train de calculer un peu vers où s'en va le cheptel de cerfs de Virginie au Québec, puis quelles sont les causes de son décès. Puis les grands spécialistes ont répondu à Stéphane rapidement. Stéphane, les deux première cause de décès d'un cerf de Virginie, un, la neige, deux, les coyotes. Là, j'ai dit, OK, c'est combien de cerfs de Virginie par coyote? Ils disent, en moyenne, un à trois par mois. Donc, un par mois, là, c'est normal. Fait qu'au minimum, un coyote va tuer 12 cerfs de Virginie par année. Un. Quand tu commences à parler d'une meute de 15, 20, 25 coyotes, là, on commence à parler d'une empreinte qui est quand même assez grande dans l'équation qui nous mène à savoir mais pourquoi on en est rendu là dans le troupeau de cerfs de Virginie. Puis effectivement, ben, il y en a de plus en plus. C'est énorme présentement les quantités de coyotes qu'on rencontre sur nos territoires. C'est du jamais vu. Fait que c'est sûr, c'est ça que tu as entendu. Surtout dans le coin où est-ce que tu étais, je te garantis, c'était des coyotes.
Ouais, c'est une problématique d'agriculteurs aussi, ceux qui élèvent des animaux. Tu me donnais, par exemple, tantôt, pendant la pause, ceux qui ont des cochons, exemple, des porcheries, puis parfois, oui. les cochons décèdent, ils sont supposés les mettre dans une fameuse benne. J'imagine que les coyotes, ils sentent ça aussi, là.
Ben oui, puis ça vient virer à l'entour, puis là, t'as son voisin, lui, c'est du dindon qu'il fait, en pâturage libre ou quoi que ce soit. Fait que, écoute, il réussit pas à pogner le cochon l'embène, mais il est attiré par l'odeur, tu sais. Il saute la clôture, rentre dans le dindon ou dans la pintarde ou dans un poulet de basse-cour. Puis présentement, tu sais, la pandémie a apporté quelque chose de nouveau dans nos quartiers résidentiels qu'on n'avait pas avant. Tout le monde s'est mis à s'installer des poulaillers dans leur... Ces mêmes coyotes-là, qui sont en milieu périurbain, quand ils finissent pas par trouver qu'est-ce qu'ils veulent, justement dans cette benne-là ou dans le cerf de Virginie, ils se rabattent vers qu'est-ce qui est disponible. Fait que s'il en vient vers les quartiers résidentiels, il y a du poulet qui se promène, des poules, il va aller là-dedans. Sinon, puis tout au minou, des fois, disparaît d'un quartier. Tu sais, dans le temps, là, avant que le coyote évolue comme il l'est aujourd'hui, c'est une bête qui était beaucoup plus petite. Le coyote se rabattait beaucoup d'un petit rongeur, des perdrix, etc. Il en mange encore. Mm-hmm. Mais il s'est éduqué. Il est capable. C'est une machine à tuer aujourd'hui. Il est capable de s'attaquer à un cerf de Virginie, le terrasser puis le manger. Fait que pitou minou au bout de la laisse, ou ben non, les poules qui se promènent sur votre terrain, là, vous êtes en périurbain, c'est normal de voir des traces de coyotes sur votre terrain. C'est bar open.
Mais les enfants aussi, malheureusement, on a déjà vu des vidéos comme quoi un chien venait sauver l'enfant familial face aux coyotes. Ça peut être un peu plus inquiétant.
Et ça va devenir de plus en plus inquiétant avec le fait que maintenant, le coyote et le loup se reproduisent ensemble pour donner une espèce qui s'appelle le coy-loup.
Le coy-loup.
Exactement.
Yannick est le précurseur?
Le coy-loup.
Oui. Imagine un peu, on va dire ça de même, mais le manque de peur, comment est-ce qu'on appelle ça? Un coyote, là, c'est un peu dumbass. C'est un peu niaiseux. Ça va se compromettre, ça va compromettre sa sécurité puis la sécurité de sa meute beaucoup plus qu'un loup. Ça marche quand même sur des œufs, là, mais c'est beaucoup moins intelligent et rusé qu'un loup. Mais là, tu t'en vas donner la force d'attaque d'un loup avec un esprit un petit peu plus stifler là, dans folie de graduation, là, où est-ce qu'il va faire à peu près n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut. Là, tu viens de créer une machine que tu ne peux plus contrôler en la comprenant logiquement. Tu viens de créer une machine qui peut aller chercher à manger, point final, sans poser de questions. Ça, c'est ce qui peut se passer. Donc, quand on arrive dans les efforts de contrôle de prédation par les chasseurs, les trappeurs gestionnaires, puis c'est sûr que ces gens-là vont sur Facebook, puis à gauche, à droite, vont aller montrer un peu le travail qu'ils font avec les agriculteurs. Donc, voici, on vient de retirer 5 coyotes, donc c'est 5 fois 12 chevreuils de sauvés. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions parce que rapidement, on identifie ces coyotes-là à à Pitou, à Benji, à etc. qu'on a à la maison. Puis ça vient chercher beaucoup dans les motifs collectifs. Mais il faut comprendre cette dynamique-là parce qu'on donne énormément par le gaspillage, par la surproduction, par la facilité à l'accès de nourriture ou d'opportunités proches des villes à ces coyotes-là. Ils s'en rapprochent, ils rentrent dans le cheptel de cerf de Virginie. Ils sont surnuméraires, mais beaucoup surnuméraires présentement. On n'a pas le choix de rentrer dans les moyens de contrôle là, dans le cas du coyote. Là.
Ça peut ressembler à quoi? Un chasseur peut chasser combien de coyotes? C'est un peu comme réglementé comme l'orignal, mettons?
Non, c'est pas réglementé du tout. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que ça prend un permis de petit gibier pour aller au coyote. Littéralement. Le même permis pour aller à Perdrix ou encore au Lièvre. À part si tu y vas par trappage, si tu y vas dans le trappage, ben là, il faut que tu suives une réglementation, une formation, puis il faut que tu y ailles suivant les UGAF, les UGAF, là, qui vont donner les saisons où est-ce que tu peux trapper, puis le type de piège que tu peux utiliser. Mais à la chasse, il n'y a pas de limite. Par contre, c'est quand même une chasse qui est un gros challenge. Hein. On va utiliser des leurres visuelles, des leurres olfactifs, des leurres sonores, pour finir par les déjouer. Puis bien souvent, là, Phil Paradis, la salopette l'aventurier, nous le disait en studio dernièrement, il dit, tu vas t'essayer là deux fois sur un territoire, là, deux jours consécutifs, là, tu lâches le territoire pendant une semaine parce que ton odeur est là puis ils reviendront pas. Ils sont rusés quand même. Fait qu'un chasseur de coyotes qui va présenter une saison de 10 coyotes là, dans une saison complète, là, c'est un champion.
Est-ce que une fois que t'as tué le coyote, que tu l'as chassé puis que tu l'as tué, Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux le faire empailler, mais à part ça, tu fais quoi?
L'utilisation optimale de du coyote comme animal serait entre autres de récupérer sa fourrure. Donc on va vraiment skinner, on va récupérer la fourrure, on va soit vendre la fourrure pour qu'elle soit utilisée c'est super le fun parce que là tu utilises un animal avec lequel tu as fait de la déprédation. Puis tu vas réutiliser la fourrure pour, par exemple, des manufactures qui vont acheter ça pour faire soit des cols de manteau ou des trucs comme ça. Ou tu vas, toi, tout simplement, la faire tanner pour te faire un couvre-pied, un couvre-lit, un quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de la décoration qui se fait aussi avec la fourrure de coyote. Un peu comme on le fait avec la fourrure de lapin de chair. Il y a de l'élevage de lapin qui se fait pour la chair de lapin. Avant, on ouvrait ça à peu près n'importe comment pour aller chercher la chair là-dedans, puis on vendait ça sur le marché. Maintenant, ils ont la délicatesse de vraiment retirer le pelage du lapin délicatement parce qu'on va réutiliser le pelage du lapin pour fabriquer la décoration, des vêtements, des toutous, des trucs comme ça. Mais c'est la même chose pour le coyote. On va réutiliser sa fourrure. Pour ce qui est de la viande du coyote, c'est pas comestible. Les prédateurs au Québec, à l'exception du lynx, ne sont pas considérés comme comestibles. Il y en a qui vont dire « j'y ai goûté, c'est bon ». Ça n'est pas considéré comme comestible, à l'exception du lynx.
OK, mais c'est pas considéré comme comestible. Il me semble que je me risquerais pas. J'aurais l'impression de manger un chien.
Pas juste
ouais, ça. C'est vrai. Hein?
C'est pas, fait pas partie de nos habitudes.
Non, vraiment pas.
On a plutôt l'alimentation du coyote.
Ouais, exact. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des coyotes maintenant sur l'île de Montréal?
Oui, absolument. Il y a des coyotes qui ont été reportés, qui ont été vus sur l'île de Montréal, définitivement. Moi, je les ai pas vus de mes yeux, mais de la photo, on a vu passer en masse. Alors, à moins qu'ils soient vraiment bons sur Photoshop, là, moi, je vous dis, on a vu de la photo avec des bâtiments clairement identifiables à Montréal, de coyotes sur l'île de Montréal, définitivement.
Okay, puis ça se promène-tu pas mal ou ça reste dans un secteur désigné?
Il y a un rapport là-dedans qu'il faut comprendre, qui est un rapport de capacité de soutien du milieu. Il est capable de se déplacer sur d'énormes distances si la population de coyotes devient trop grande pour aller occuper un nouveau territoire. Sinon, il va occuper un territoire qui va dominer. Et il va créer une meute avec une hiérarchie. Puis à un moment donné, bien, comme dans n'importe quelle meute, deux chums de gars qui sont ensemble depuis longtemps vont à un moment donné se séparer dans la vie puis créer deux nouvelles meutes. Ça se tapoche, ça se mord, ça se sépare, puis ils s'en vont créer des nouvelles meutes, puis ils vont chercher des nouveaux territoires. Mais généralement, ça reste là, dans un périmètre quand même assez concis, mais c'est capable de se déplacer là, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à la recherche de bouffe ou d'un nouveau milieu.
OK, mais ça se fait des terriers, j'imagine? Ça creuse?
Oui, c'est capable de creuser en masse. Ça va souvent utiliser des protubérances qui sont déjà existantes, comme par exemple des racines, un arbre qui va avoir poussé puis qui va avoir dégagé dans le bas. Il va souvent se servir de ça. Sinon, il va carrément creuser un nouveau terrier. C'est très performant pour creuser.
Ah oui, impressionnant. Martin Bourget, comment on fait pour vous voir, pour vous lire, pour vous entendre?
La place présentement où est-ce que vous pouvez avoir toute l'information, c'est sur notre plateforme, évidemment, Internet, Aventure Chasse-Pêche. Tapez ça sur Google, ils vont vous amener à la bonne place. À 21h, tous les jeudis, sur le, du côté de Télémag, en simultané sur Facebook et sur YouTube. On est maintenant sur Carbon TV, Sportsman Channel. Puis, inscrivez-vous à notre infolettre, gang, sur le site web. Vous allez tout savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, vous nous écrivez sur Facebook. Ou maintenant, vous nous pognez dans Marceau le midi. Puis, d'info, on a même la chance d'être dans Marceau le soir.
Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, les autres. Hey, je vous souhaite de passer une belle run, parce que vous êtes en voiture présentement. Puis, peux-tu faire quelque chose pour moi?
Je la passe, ça va long.
Salut, Kate.
Salut, allez.
C'est toujours un plaisir de te voir et de te jaser.
Super, hey, bonne journée.
Amusez-vous, les amis. Bye-bye.
Salut.
Martin Bourget, notre excellent chroniqueur chasse-pêche.
Toujours un plaisir.
Et sa douce conjointe.
Kate.
Cet homme-là doit être riche.
Mais il sait déterminer un coyote et un loup.
Ouais, c'est ça. Mais visuellement, là, entre un coyote et un chien, c'est compliqué. Là.
Ouais, c'est quand vrai qu'il y a des bonnes ressemblances.
Quand tu le vois de loin, il faut vraiment que tu sois comme un... Faut que t'en aies vu beaucoup des coyotes. Moi, j'avais vu c'était un lynx que j'avais vu à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis après ça, il y avait... Tu sais, les gens me croyaient pas. T'sais, quand tu vois les affaires exceptionnelles dans le bois, là, t'as toujours quelqu'un qui te dit « Non, non, c'est pas ça que t'as vu. C'est un chat. » Mais tu sais, entre un lynx et un chat, il y a une différence de grosseur. Puis la tête et les oreilles, c'est vraiment pas pareil. Mais comme je l'avais vu au bout du sentier où je courais, où j'avais vu mon fameux orignal, Pascal, je l'avais vu au bout du sentier, puis je trouvais que le pêteux, il était comme plus surélevé par rapport à ses pattes d'en avant. Ça a l'air vraiment d'un lynx. Puis en jasant avec mes chums autour, ben non, c'est un chat que t'as vu. Puis là, je parle avec un agriculteur qui était juste à côté du lac où j'habitais. Non, 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 ça c'est des chats, il n'y a pas de lynx ici, il n'y a pas de lynx. 3 semaines ou 1 mois plus tard, le lynx était rendu à Scott. Puis il a été pris en photo.
Tout le monde en parlait.
Ah ouais, tout le monde en parlait. Mais quand tu crois ça dans le bois, c'est très impressionnant.
Est-ce qu'on avait réussi à te convaincre que c'est un chat? En disant « Non, non, Yannick, c'est un chat. »
Mais tu sais, les gens ont... Ce que tu n'as jamais vu, tu peux pas toujours le croire. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit « Yann, j'ai vu quelque chose dans le ciel. » Tu sais, OK, bon, t'as peu. T'as-tu déjà vu les satellites d'Elon Musk? Non, c'est quoi ça? Ben, c'est des satellites qui sont en fils, comme une ligne horizontale, il y a plein de points blancs, puis ça passe à une vitesse incroyable dans le ciel. Ah, mais c'est exactement ça que j'ai vu. Mais tu pensais que c'était quoi? Ben, je sais pas, Yann. Je pensais que c'était comme... Ben, tu sais, là.
Ben, honnêtement... Ben
non, mais je sais quoi. C'est des satellites. Non, non, mais tu sais à quoi je pensais, là?
Honnêtement, moi, je t'ai raconté la scène. J'étais avec une de mes amies au lac Saint-Jean. On les a vus, puis il n'y a aucune des deux qui souhaitait dire « As-tu vu ce que j'ai vu? »
Ben,
c'était étrange, puis ça commençait, puis on n'avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'était étrange.
Mais tu y vas tout le temps selon tes connaissances. Puis moi, ben, je n'en connaissais pas tant que ça sur la faune, mais quand j'ai vu le fameux lynx, je l'avais identifié, puis je trouvais ça exceptionnel de voir ça.
C'est magnifique.
Quand t'en parles au monde qui ne l'ont jamais vu... Ou bien, si tu vois quelque chose se promener dans les airs, mettons, un drone, on sait tous c'est quoi maintenant un drone, mais mêlé dans un endroit où, je sais pas moi, la technologie serait en pas. Mettons en Amérique du Sud où il y a une grande pauvreté. Tu mets un drone qui est illuminé le soir, là, qui a une lumière rouge et une lumière verte, puis tu le mets à hauteur des fenêtres, là, qu'est-ce qu'ils vont penser? T'sais, ils n'envoient pas des drones. Ils savent pas nécessairement c'est quoi.
Ils savent pas c'est quoi.
Fait qu'ils vont faire comme Pascal CV. T'as-tu vu ce qu'on vient de voir? Tu y vas tout le temps selon tes connaissances.
Exact. Fait
que, bref, des coyotes, il y en a partout. Il y en a même sur l'île de Montréal. Je serais curieux de savoir s'il y en a à Québec ou s'ils restent quand même en périphérie, peut-être plus dans le nord, là, dans les banlieues. Dans ton coin, tu dois en avoir, là. Lac Beauport. T'es entends pas?
Non.
Chialer dans le bois?
Non.
Mes parents habitent sur le boulevard Cartier. Il y a plein de coyotes de bois.
Il y en avait beaucoup à l'Ange-Gardien. Ouais,
boulevard Val-Cartier.
Val-Cartier. Ouais. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais
sur l'avenue Royale, tout le long, derrière les maisons, il y a des grands champs. Moi, je me souviens d'en voir au loin, là, quand j'étais jeune, là, des coyotes. Mais Côte-de-Beaupré. Là.
Uh-huh.
Sauf que ça s'est beaucoup construit dans les dernières années. Probablement que ça a fait tasser un peu une coupe de meute.
Oui, exact, exact. Y en a-tu dans votre secteur? 418-971-101. Nous autres, on s'en va en musique avec Vendôme passé sur les zones de boulevard. Merci d'être là.